jeux vidéo, c'est bête et violent. C'est toujours la même chose et ce n'est pas épatant. La micro-informatique, c'est un gadget cher et qui ne sert à rien. Les gros ordinateurs, c'est mieux et c'est plus sérieux. Internet, c'est dangereux, c'est porno et c'est moins joli que le Minitel. Le multimédia, c'est cracra. Aujourd'hui, dans un cyberflash qui arrête de répéter ce qu'il y a dans tous les journaux de vieux, l'assistance scolaire multimédia selon Weber. Le point sur le marché des cartouches 16 bits et une version un peu spéciale d'un jeu de baston. Exercise.
L'exodemath incompréhensible. Le devoir de français infaisable. Ces deux terreurs de l'enfance ont inspiré un CD-ROM inventif. Au départ, un principe simple. Tous les élèves ont des manuels et tous les profs choisissent des exercices à la maison dans ces manuels. Pourquoi ne pas enregistrer tous les exercices de tous les manuels utilisés en France sur un CD-ROM? Je choisirai mon livre, le numéro de mon exercice et une leçon correspondante apparaîtrait. Je pourrais réviser, m'entraîner sans pour autant avoir la réponse exacte à mon problème. L'idée est adaptée pour le français et les maths de la 6e à la 3e. L'aide au travail prend en charge l'exercice du jour, un test pour se chauffer les neurones et je fais monter ma moyenne pour soutirer à papa ma nouvelle console. Mieux encore, imaginons que j'ai été malade, toutes les leçons sont reprises par un prof virtuel. En géométrie, des animations font voir comment construire, font observer les rapports, amènent tout naturellement à tirer les conséquences. C'est ce que le prof appelle démontrer. En cas d'interro à venir, je peux m'entraîner en temps limité. Une petite récré culturelle exerce la mémoire et donne l'occasion de réviser ses connaissances en sport, par exemple. Cet assistant existe aussi en français. Ce n'est pas le premier programme de grammaire et, comme ses frères, il procède plus par répétition que par explication. Toutefois, il aide à rédiger des textes. Un choix très ouvert de sujet facilite l'expression. Tout le long, des questions, des suggestions sont formulées. Avec un peu d'astuce, on peut même enrichir son texte en utilisant l'aide grammaticale. Et si je plaçais une subordonnée de temps, un adverbe? Finalement, on progresse. Toutes ces idées seraient certes mieux servies par une mise en page moins document scolaire. Mais malgré la musique, qui veut faire jeune, l'habillage façon cahier Rodia, ces programmes atteindront le public qu'ils visent. Les collégiens qui veulent bien réussir en échange d'un peu de fun.
Bon, maintenant que vous savez résoudre n'importe quel problème, vous allez pouvoir retourner à votre vieille console 16 bits. Et on va voir comment se porte ce marché.
Si les PC familiaux et leurs lecteurs de CD-ROM se développent dans des proportions impressionnantes, si les consoles 32 bits font rêver de plus en plus de joueurs, nos bonnes vieilles Super Nintendo et Mega Drive restent, et de très loin, les plus nombreuses. Nintendo et Sega, à eux deux, en ont vendu plus de 80 millions dans le monde. Et avec 80 millions de machines vendues depuis 1990, année de lancement des deux consoles 16 bits, les éditeurs devraient vendre des millions de jeux. Ce n'est pas le cas au pays des 16 bits, rien ne va plus. D'abord, les ventes de consoles ont été divisées par 4. En France, Sega vendait 700 000 machines en 1992 et n'en a vendu que 150 000 en 95. Nintendo, en 1992, vendait 10 millions de machines dans le monde. 3 ans plus tard, le fabricant n'en vendait plus que 3,5 millions. La chute est rude. Mais après tout, une telle baisse est normale. Chacun sait que les technologies évoluent très vite, que les 16 bits ont chassé les 8 bits, tout comme les 32 bits chasseront les 16 bits. Et puis vendre 3 ou 4 millions de consoles, ce n'est pas si mal. Non, ce qui est vraiment inquiétant, c'est que le marché de la cartouche va mal. Regardez la liste des meilleures ventes sur consoles 16 bits. Donkey Kong Country 1 et 2, FIFA Soccer 96, Yoshi's Island, Sonic & Knuckles, Killer Instinct. Seuls les très gros titres édités par les très gros éditeurs Sega, Nintendo, Electronic Arts arrivent à se vendre. 8 millions et demi d'exemplaires pour Donkey Kong Country en 3 mois, colossal. Mais les jeux moyens ou bons, eux, se vendent de moins en moins, si ce n'est pas du tout. Et tous les éditeurs français, anglais, américains quittent peu à peu le navire, abandonnent la création de nouveautés. La preuve, le seul titre français qui résiste encore et toujours au top 20 British s'appelle Street Racer. Il est signé Ubisoft et est sorti il y a 2 ans.
Ah, les Les cybermonstres sont de retour. Ils racontent à tout le monde qu'un nouveau jeu de baston révolutionnaire va sortir. Jugeons sur pièce.
Oh, on se souvient tous des anciennes versions de Street Fighter sur 16 et 32 bits qui étaient en graphisme Big Mac. Oh. Voici donc en exclusivité les premières images de la nouvelle version Nintendo 64 du célèbre jeu tiré du film du jeu du manga de l'OAV Street Fighter 2, Street Fighter The Mauvais. Et pour un premier jeu, oulala, on ne peut qu'inclider notre chapeau bas devant le talent de cette réussite complète. En effet, si le contenu du jeu n'a quasiment pas changé, la forme elle a évolué. L'animation par exemple a été particulièrement léchée. Les sprites ont été filmés en emotion capture, puis retranscodés en cube polygonal et enfin nappés de textures interpolées. Quant au graphisme, ils ont été traités par des fonctions spécifiques de la machine. L'ultra pixeling et aussi le flatulent shading. Mais le plus extraordinaire, c'est la fonction de transparence appliquée sur les sprites. C'est fabuleux, c'est génial, c'est incroyable, c'est du jamais vu.
Allez, fini la mise en boîte. Je remballe tout. Je me replonge dans les réseaux et je vous retrouve lundi. Allez, bon week-end.